Aujourd'hui, au balado Sport-Aide, tête à tête avec Madame Claire Beaumont. Bonjour Claire.
Bonjour Sylvain.
Merci d'être avec nous.
Ça me fait plaisir.
Tu vas me permettre de regarder ma feuille quelques secondes, parce qu'on a fait un tri dans ton CV, parce que ça aurait pu être long de faire l'énumération complète. Alors, je vais y aller de quelques notes. Donc, d'abord, dire que tu es titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval, titulaire de la chaire Bien-être et prévention de la violence à l'école. Tu as été pendant 8 ans secrétaire général à l'Observatoire international de la violence à l'école. Et non seulement ça, tu as aussi œuvré pendant 20 ans comme psychologue en milieu scolaire. Alors, une fois que j'ai mentionné ça, probablement que les gens qui nous écoutent se demandent pourquoi quelqu'un qui est en milieu scolaire vient au micro de Sport-Aide qui, eux, sont là pour prévenir et contrer la violence en contexte sportif. Nous, chez Sport-Aide, on le sait pourquoi on t'invite, parce qu'on a collaboré avec toi, puis nous, chez Sport-Aide, on sait aussi qu'il y a des parallèles entre le milieu scolaire puis le milieu sportif. Mais ma première question que j'ai envie de te poser, c'est toi, vu de l'externe, qui n'est pas dans le monde du sport, comment tu perçois le monde du sport avec les problématiques de violence, d'intimidation, de cyber-intimidation? Quelle est ta vue à toi de l'externe?
Bien, en fait, on parle de scolaire ou on parle des milieux sportifs. On parle de groupe, on parle de regroupement d'enfants ou d'adolescents ou de personnes. À partir du moment où il y a un regroupement de personnes, l'aspect relationnel intervient et d'autant plus lorsqu'il y a des aspects compétitifs. Okay? On peut voir que, par exemple, à l'université, il y a la compétition entre les étudiants. À l'école, on essaie qu'il n'y ait pas trop de compétition parce que c'est pour rester équitable puis donner la chance à chacun. Dans le milieu sportif, c'est aussi un regroupement de personnes qui ont des buts, okay? Certains des buts récréatifs, d'autres beaucoup plus compétitifs. Et il y a énormément d'enjeux au niveau relationnel. Donc, à partir du moment où une personne n'a pas appris ou ne sait pas comment répondre adéquatement à ses besoins sans brimer l'autre, bien, il y a des fortes chances qu'on tombe dans des pratiques, je dirais, négatives, sans nécessairement vouloir faire du tort à l'autre personne. Mais c'est quand même les résultats que ça donne.
Quand on compare des environnements, as-tu l'impression qu'il y a des environnements où les facteurs de risque sont peut-être plus prédominants, plus importants? Et là, ben, je fais allusion au monde du sport. Penses-tu, toi, à distance, qu'il y a des facteurs de risque plus importants en sport qu'en contexte scolaire ou dans le milieu des affaires?
En fait, quand la composante compétition est là, compétitive, OK? Mm-hmm. Où il y a des bourses, où il y a des gains à avoir, plus tu montes au niveau de l'élite et tout ça, c'est peut-être que c'est... Mais j'allais dire, c'est peut-être différent dans les sports d'équipe, mais pas tant, OK? Mm-hmm. Parce qu'avant d'arriver à un sport d'équipe, il faut quand même être performant. Je dirais que l'aspect compétitif est un enjeu vraiment, là, qui ça fait rêver les personnes. Des personnes peuvent penser seulement au but à atteindre aussi, mm-hmm. et sans nécessairement avoir l'esprit d'équipe ou d'entraide ou tout ça. Peut-être qu'il l'avait auparavant, mais c'est facile quand tu atteins des buts, OK, ou quand tu es proche, d'oublier. Et il n'y a pas de mauvaise volonté là-dedans, mais c'est centré sur ce que je veux. Alors, centrez-moi sur si ce que je veux, c'est plus fort que la relation ou que les autres personnes, je risque d'avoir des comportements comme ça. Mais peut-être pas non plus, OK? Donc, à l'école, on peut peut-être aussi voir l'aspect compétitif, OK? Justement, dans certains établissements ou dans certains... Le sport à l'école aussi, mm-hmm. hein? Mais dès que c'est un versus l'autre et c'est pas ensemble, il peut y avoir, là, justement... un enjeu au niveau de... Moi, je vais dire relationnel, okay? Mm-hmm. Peut-être plus qu'intimidation. Et quand un groupe se met ensemble sur une même personne, alors ça, c'est ce qu'on appelle l'intimidation, ça peut être très, très difficile à vivre, là. Okay?
Quand, dans l'introduction, j'ai relaté brièvement ton parcours, ce qui est intriguant dans ton parcours, on ne s'attend pas à ça nécessairement d'un chercheur ou d'une mm-hmm. chercheure. Tu as été sur le terrain pendant 20 ans. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a amené à faire le saut Pourquoi? Puis pourquoi aussi t'intéresser à la violence?
Mais en fait, je travaillais avec... mon expertise, c'est au niveau des jeunes en difficulté de comportement. On appelait ça comme ça, on appelle ça encore comme ça aujourd'hui, quoi qu'on tend plus vers les difficultés sociales, émotionnelles. J'ai travaillé dans des écoles en adaptation scolaire, ou particulièrement une où j'ai été plus longtemps, pendant presque 15 ans, où c'est une école où... On l'appelait l'école de la dernière chance ou la première chance, mais les élèves ne pouvaient plus fréquenter les milieux scolaires. Donc, c'était des milieux où on accueillait des jeunes en très grande souffrance qui avaient fait des efforts, mais qu'on leur reconnaissait pas. On n'avait peut-être juste pas trouvé la façon de les aider puis de soutenir leur famille. Donc, différents types de problèmes de comportement, évidemment des problèmes d'agressivité relationnelle, que ce soit très, très inhibé ou très, très extraverti. Donc, tout ça m'a amené... j'ai écrit une thèse sur les pratiques collaboratives, si on peut dire un peu comme ça, dans le sens que j'ai adapté un programme d'intervention pour des jeunes en difficulté de comportement pour les aider à être des pères aidants, alors que jamais on leur demandait d'aider les autres. On les aidait tout le temps, tout le monde voulait les aider, mais eux, on leur demandait jamais de le faire. Et tout à l'heure, quand je disais que c'est extrêmement gratifiant et valorisant de venir en aide à quelqu'un d'autre, ces jeunes-là n'avaient jamais fait l'expérience. Et moi, je misais là-dessus par instinct, parce qu'il n'y avait rien qui avait été fait à ce niveau-là. Et dans les programmes de médiation par les pairs dans les écoles, on excluait les jeunes en difficulté de comportement des équipes de médiateurs, parce qu'on voulait que ce soit des élèves qui étaient modèles. Mm-hmm. Alors bon, j'ai écrit une thèse plutôt en misant sur le fait que moi, je croyais que certains jeunes, même avec des problèmes graves de comportement, pouvaient être de bons aidants. Et le défi a bien été relevé avec du soutien. Ce qui était plus difficile, c'était la perception des adultes. Alors, quand j'appelais les parents à la maison pour leur demander « Votre enfant a été choisi par ses élèves pour être un médiateur, un père aidant. » Alors, les parents, qui étaient surtout habitués d'avoir des téléphones de l'école pour dire que ça allait pas, ils me disaient « Êtes-vous sûr qu'il peut faire ça? » Il y a des qualités, votre enfant, OK? Il n'y a pas toujours des problèmes de comportement. Il y a des qualités, puis on va les développer davantage. Et c'est jamais arrivé, juste une anecdote, c'est jamais arrivé dans l'année où on a développé le programme, où il y avait un jeune médiateur en trouble grave de comportement qui portait son dossard sur la cour de récré. C'est jamais arrivé qu'on ait eu à le rentrer parce qu'il se comportait mal. Jamais. On avait par contre dit, pas, il est interdit, là, il n'est plus question là, que tu te comportes mal. On a dit, écoute, la vie étant ce qu'était, des fois, ça se peut qu'on s'échappe. On ne veut pas que que tu agisses négativement vers les autres, mais quand ça va se produire, on va prévoir un espace où tu vas entrer, tu vas te calmer, puis tu vas t'asseoir là calmement. Puis ensuite, tu reviendras. Alors que le réflexe, c'est de dire, écoute, on t'enlève ton dossard, t'es plus médiateur, puis t'es de punition chez le directeur. C'était pas la philosophie, OK? Et c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé qu'un jeune médiateur qui avait des problèmes graves de comportement, qui était en mission sur la cour de récréation pendant son horaire attribué, avait un comportement qui était répréhensible.
Qu'est-ce qui t'a guidé vers cette approche? Parce que c'est différent là, de ce que l'on observe là, sur le terrain.
Oui.
On est en mode punitif.
Oui. J'avais vu ça, OK? J'avais vu, ça c'est quand même une quinzaine d'années que j'étais psychologue scolaire. J'avais vu ça, je cherchais chez ces jeunes-là quelque chose qu'on n'avait jamais tenté, parce que tout ce qui avait été tenté auparavant, ça ne marchait pas, OK? Et je voulais chercher le positif et voir comment ils pourraient redorer leur image aux yeux des autres aussi, et en même temps apporter de l'aide. Donc, qu'est-ce qui m'a amené vers ça? C'est d'essayer de trouver le bon chez ces enfants-là et de leur faire voir, alors qu'ils étaient habitués de se voir. Tu sais, un jeune qui a des problèmes de comportement, et souvent, l'estime de soi est souvent très, très faible parce qu'il pense qu'il est tout toujours mm-hmm. pas correct, alors que c'est le tel comportement qu'on lui reproche et c'est non sa personne en totalité. Donc, ce qui m'a amenée à m'intéresser à ça, aussi le défi de tenter quelque chose qui n'avait jamais été fait. Et on m'a même dit, écoute, les profs vont s'embarquer là-dedans. Mm-hmm. Le plus gros défi, c'était les enseignants. Parce que...
Comment on réussit à les convaincre? Parce que je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec le monde du sport. Comment on arrive à amener des intervenants à travailler en amont avec nos jeunes plutôt qu'en aval?
Écoute, je te dirais que... j'avais déjà une crédibilité auprès de mon équipe à l'école. Bon, mais c'était pas gagné d'avance. Une anecdote que je pourrais raconter, ça faisait peut-être 4-5 mois où le programme était en marche, les médiateurs étaient en fonction, la publicité, les cours de développement des habiletés sociales dans les classes pour tous les élèves et tout ça. Et dans un gymnase... Alors, le prof d'éducation physique a dit aux enfants, écoutez, là, vous allez arrêter, là, OK? Tout le monde, vous allez être sur le banc, puis quand vous allez vous être calmé, on pourra reprendre le... Et là, ça recommence à grouiller, à s'agiter sur le banc. Deux enfants se prennent, en tout cas, un peu chicane encore. Et là, elle dit, OK, on arrête tout ça, plus de cours d'éduc. Et il y a un enfant de 9 ans qui dit au prof... Mais pourquoi tu ne demandes pas à un médiateur de régler ça? On pourrait l'avoir, notre cours d'études, wow. Tu sais. Et c'était une très bonne enseignante. C'était pas la pire à convaincre. Elle a fait, elle a dit, ben voyons, c'est vrai. Et les enfants avaient déjà pris ce mode-là comme une solution. Alors que, tu sais, tous nos anciens patterns, OK? Basé sur la punition, mm-hmm. sur la restriction, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on pensait qui était efficace. Ça peut être efficace avec des enfants, une fois, quand tu le fais une fois ou deux, là. Mais quand tu répètes et tu répètes et tu répètes, c'est que ça ne sert à rien de répéter quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mm-hmm. Alors, à ce moment-là, je dirais que c'est ce qui m'a amené à cette approche-là, ce qui fait que j'ai un peu, dans mes domaines d'intérêt, faire diminuer la violence, améliorer les relations interpersonnelles, la résolution de conflits, les pratiques collaboratives. Et je dirais, ça m'a amené aussi vers la prévention de la violence. Mais en fait, ce qui m'a amené en prévention de la violence pendant pendant ma formation universitaire, en fait, je suis retournée à l'université, j'avais 40 ans, et parce que j'avais l'impression que j'avais comme fait un petit peu le tour. Je créais des programmes, des interventions. Moi, je créais des choses, que j'essayais d'innover, mm-hmm. tout ça. Et à la fin de l'année, quand on arrivait pour évaluer si ça avait fonctionné ou pas, on passait très peu de temps à évaluer ça. Et ça finissait toujours, ah oui, on a aimé ça, on n'a pas aimé ça, c'était positif, ça... mais sans plus, j'avais comme l'impression que je savais pas évaluer, j'allais pas assez chercher, parce que ce qui se passe dans le milieu scolaire aussi, c'est qu'on jette tout, puis on veut recommencer. Alors, les fameuses pratiques innovantes, ou bien, tu sais, c'est pas parce que c'est nouveau que c'est bien, puis c'est pas parce qu'il y a une partie des choses que tu faisais dans tout ce que tu faisais est peut-être à améliorer qu'il faut que tu revoies encore. Et c'est l'espèce de piège dans lequel on se trouve en milieu scolaire, c'est qu'on veut réinventer. Puis en même temps, quand on essaie d'implanter quelque chose de nouveau, ben là, ça fait un peu peur. Et il faut, à mon avis, il faut surtout tabler sur ce qu'on fait de bien. Un peu aussi l'approche que j'avais avec les jeunes. Tu tables sur ce que tu fais de bien, tu évalues ce qui va bien, puis les choses que tu pourrais améliorer, tu les améliores, mais tu restes avec une partie de connu, une partie d'intervention dans laquelle tu es à l'aise. Ça, c'est important.
Une approche comme celle-là, est-ce qu'à l'extérieur, à l'étranger, il y a des initiatives comparables? Est-ce qu'il y a des résultats? Est-ce qu'on peut mesurer la réussite ou non de telles approches?
C'est que c'est un mélange de toutes sortes d'approches. Okay? Moi, je vous parle de ça avec les intérêts avec lesquels moi je suis allée comme faire des recherches ou comme faire du transfert de connaissances aussi par après, c'est, je dirais, c'est une approche positive. J'ai découvert beaucoup plus tard la psychologie positive qui a quand même des aspects super intéressants. Au lieu de tabler sur les problèmes, on mise sur les vraiment... C'est-à-dire, au lieu de miser sur l'absence de maladie, on vise la santé. Okay. Donc, on fait la promotion, faire la promotion des conduites positives, faire la promotion des saines habitudes, faire la promotion des choses, s'en aller dans le positif, c'est beaucoup plus mobilisant et beaucoup plus intéressant pour une équipe de travailler dans ce sens-là que pour prévenir la violence. Moi, j'ai vu vraiment un tournant extrêmement important, je dirais, depuis les 10-12 dernières années sur l'approche positive, quand on a davantage travaillé avec le climat, parce que des établissements scolaires, des directions d'école pouvaient nous dire « nous, on en a, nous la violence, c'est pas un problème dans notre école. Nous, on n'en a pas de violence. » Sauf que même si on pense qu'il n'y en a pas, il y a beaucoup de choses qui se passent entre les élèves. Et au niveau relationnel, il y a des souffrances. Mm-hmm. On se construit avec ça et on apprend avec ce qu'on voit et ce qu'on expérimente. Alors, l'approche positive permet de miser sur le bon qu'il y a dans la personne, okay? En ne niant pas les choses qu'il faut qu'ils changent, tout à fait. Et en donnant la chance à la personne de se reprendre, tu sais. Comme la justice réparatrice, mm-hmm. okay, ou les approches réparatrices, c'est pour réparer auprès de la personne qui a subi quelque chose, sauf que c'est aussi pour permettre à la personne qui agit moins positivement de se reprendre. Et ça, on lui donne la chance de se reprendre et de se sentir à nouveau quelqu'un de bien plutôt que quelqu'un de... qui a fait quelque chose de pas, ben on est en train peut-être de gagner une personne.
C'est une occasion d'éducation et de sensibilisation aussi. Là.
Exactement. Et l'éducation positive, hein, le terme qui a été développé depuis plus récemment, c'est justement dans ce sens-là de croire en la possibilité que puis la bienveillance accompagne ça, une posture, de croire que chaque individu est capable de s'améliorer.
La chaire que tu diriges, vous avez mené une étude dans les dernières années, le CEVEC. Elle servait, cette étude-là, à mesurer la réussite de ces interventions-là, de ton approche. Elle servait à mesurer l'intimidation, la violence en contexte en milieu scolaire.
Oui. En fait, dans les médias et dans la pensée populaire, c'était pas rare qu'on entendait les gens dire « la violence est de plus en plus grande, okay? Les jeunes sont de plus en plus violents. »
C'est pas vrai, ça? Parce qu'il y a une bonne demande,
les enseignants se font de plus en plus violentés. Et il y avait pas d'études qui... il faut qu'on parle des faits, là, OK? Et il y avait une espèce d'écart entre les générations. Alors, moi, ce que je voyais, c'est de génération en génération, c'était des choses qui revenaient. Alors, plus les personnes changent de génération, ils ont un regard sur la génération plus jeune, différente. Alors, est-ce que c'est la perception? Enfin, on n'avait pas de données. Il n'existait pas de données au Québec ni dans plusieurs autres pays non plus sur l'aspect longitudinal, OK? Si on suit sur une certaine période de temps les comportements, là, on va pouvoir voir si ça se détériore ou pas. Sinon,
c'est
une
ponctuel,
hypothèse. Puis pourquoi on se plaît dans cette hypothèse-là de penser que les jeunes vont de plus en plus mal? Pourquoi on se plaît là-dedans?
C'est une bonne question.
Quelque part pour se dire que nous, on était mieux. Je sais pas, mais c'est pas dit comme ça, là. Mais on se plaît. Ça fait les grands titres, c'est très vendeur et tout ça. Donc, nous autres, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait voir au fil des ans et on voulait répondre à cette question-là. Est-ce que la violence... puis on utilisait le mot « violence » à l'époque. Est-ce que la violence est de plus en plus grande dans les écoles?
OK, donc, tu parlais de violence globale, c'était pas pointu sur l'intimidation.
Non. OK. Avec le... C'est ça. Je disais tantôt que ce qui m'a amené à parler de violence, à m'intéresser à la violence à l'école, c'est que lorsque je faisais mes stages doctoraux, j'ai travaillé avec à Bordeaux et à Paris avec l'Observatoire international de la violence. Et, bon, j'ai développé un réseau de relations et de chercheurs et on s'est intéressé à ça. Ce qui m'est amené à avoir... créé l'Observatoire canadien en, je pense, en 2005 ou 2006, l'Observatoire canadien sur la prévention de la violence à l'école. Et il y avait aussi, dans les collègues à l'international, différents observatoires. En Espagne, il y en avait un, il y avait l'européen, ensuite il est devenu celui de la France, et certains différents pays comme ça, et des collègues avec lesquels on partageait la même vision. Mais quand on vient pour évaluer la violence, c'est un terme extrêmement subjectif. Et le terme intimidation, pour nous, c'était extrêmement difficile d'évaluer ça, parce que comment tu mesures l'intention avec les critères qu'on avait à ce moment-là? Donc, comme mes collègues français et mes collègues australiens, OK, et israéliens et québécois, on a travaillé plutôt dans la même optique, c'est qu'on décrivait les faits. Et à partir du moment où il y en avait plus que deux ou trois fois par mois, ou à partir du moment où un jeune nous disait qu'il avait subi, par exemple, des coups ou quelque chose, alors avec la fréquence que lui nous donnait, nous, avec la littérature scientifique et les écrits, on était capable de distinguer, on travaillait avec l'hypothèse que quand tu vis ça au moins deux, trois fois par mois, c'est suffisant pour que tu n'aies plus envie d'aller à l'école ou de créer des problèmes. Donc, on ne demandait pas aux jeunes est-ce que tu t'es fait intimider, parce qu'il pouvait, dans sa compréhension du terme intimidation, ça pouvait être toutes sortes de choses. Puis même si on donnait une définition, c'était trop subjectif. Alors, on a travaillé avec, depuis 2012, avec l'enquête CIVIC, on a choisi de travailler avec le terme « violence », mais décrit par différents comportements. Okay. Et c'est, quand on vient pour évaluer quelque chose, c'est difficile quand le terme n'est pas précis. Alors, c'est ce qu'on a fait, et on demandait aux jeunes, c'est une première enquête au cours de laquelle on a interrogé les parents. Il n'existait pas de questionnaire pour...
Seulement les parents?
Non, c'est-à-dire il y avait des questionnaires pour le primaire, pour le secondaire, pour le personnel scolaire, pour les directions d'établissement. On a même aussi fait une version pour les centres de formation professionnelle et de formation générale aux adultes. Et notre tout dernier bébé, c'est pour les jeunes de 6-9 ans. Parce qu'à l'international, il n'existait pas de mesure pour évaluer la perception des jeunes élèves de 6-9 ans. Parce que utiliser des questionnaires en groupe, ça demande quand même une certaine capacité de concentration, une certaine autonomie aussi. Et chez les questionnaires débutaient toujours à partir de 10 ans. Et on a vraiment créé... un questionnaire pour les jeunes de 6-9 ans. D'ailleurs, il y a une trousse qui vient de paraître dans laquelle quelqu'un de chez vous a collaboré. Alors, Alexandre a collaboré il y a quelques années. On a fini par la finir. Et en fait, on n'a pas appelé ça un questionnaire sur la violence pour les 6-9 ans. On a plutôt appelé ça un questionnaire sur le bien-être à l'école et le climat, parce qu'on voulait connaître la perception que les petits se font de leur climat scolaire et de leur propre bien-être. Et c'est compliqué d'évaluer ça auprès des petits.
Vous le faites quoi, à l'aide d'illustrations ou...
Il a fallu modifier, il a fallu vraiment s'approprier le concept de bien-être d'abord. OK, de le distinguer de celui du climat. Alors, mon bien-être à moi et le climat, la perception que je vois, parce que très souvent...
Il y avait une phase d'éducation avant, donc, pour les aider à comprendre les concepts qui allaient être abordés dans...
Non. Nous, il fallait qu'on comprenne les concepts pour faire des questions claires et courtes pour les petits.
OK.
Et à partir de ça, bon, ben, ça nous a permis de voir, là, on a eu une expérimentation qui s'est déroulée dans une commission scolaire qui nous a permis de voir que les jeunes étaient capables de dire comment ils percevaient, et que si on leur demandait comment ils perçoivent leur climat et comment ils se sentent, est-ce qu'ils se sentent bien à l'école ou pas, déjà en première, deuxième, troisième année, peut-être que si on savait ça, on pourrait vraiment prévenir. Mm-hmm. Puis déjà, il y a un certain nombre de jeunes, et on serait surpris, qui, déjà en première, deuxième, troisième année, eux autres, l'école, là, c'est synonyme de relations négatives, c'est un fardeau. Pendant la pandémie, il y a certains jeunes qui étaient beaucoup mieux à la maison, parce qu'à l'école, c'était un milieu dans lequel il y avait beaucoup, mmh, de souffrance, là. Okay? Alors, si on était capable de donner la parole aux petits, puis de travailler avec leur perception, vraiment, alors c'est comme une chance de plus qu'on a pour trouver des interventions qui sont adaptées à ce qu'ils pensent. Parce que là, si on n'a pas leur perception, ils voient d'après ce que nous, les adultes, on pense. Mmh. Et on a eu des résultats qui devraient être publiés là, par une étudiante qui fait un doctorat là-dessus.
Quand je t'entends parler de ton travail, je ne peux pas faire autrement que de penser au fait que tu as été sur le terrain. Puis j'ai vraiment l'impression que le fait que tu as été sur le terrain, ça t'a alimenté, puis ça t'aide d'avoir une meilleure, je pense, compréhension de ce qui se passe sur le terrain. Ce qu'on reproche parfois aux chercheurs, d'être déconnectés du terrain.
Oui. Ah, c'est clair. C'est clair. Je fais de la recherche, OK, mais c'est un accident. Je suis une intervenante. Et pour pouvoir arriver à aller comme plus loin, il faut que je fasse la recherche, mm-hmm, parce que il faut que je m'alimente aussi, là, OK? Donc, c'est clair que toutes les recherches que j'ai faites ont été teintées par ce que j'entrevoyais sur le transfert de connaissances. Est-ce que ça va être utile? Et à qui ça va être utile? Et il n'y a aucune recherche que j'ai faite qui n'a pas servi à personne. Et je m'alimente avec ça. Alors, je fais du transfert, je réponds à des besoins des milieux, je regarde, j'ai gardé le contact, j'essaie toujours d'être un peu en avance pour pouvoir être là quand ils vont en avoir besoin. Et c'est pas mal ce qui se passe là. La collaboration avec les milieux scolaires est extrêmement intéressante et précieuse. J'ai vraiment besoin des yeux, des oreilles, des intervenants. J'ai beaucoup de personnes du terrain qui travaillent avec moi régulièrement. Et c'est comme ça, la collaboration. Les forces de chacun mis ensemble, on a des bonnes discussions. J'ai pas toujours raison, eux autres non plus. Et c'est ce qui fait la force d'une équipe, en fait, là.
Écoute, Claire, moi, j'aimerais ça qu'on revienne sur l'enquête. Il y a certainement des résultats. Moi, j'aimerais savoir ce qu'elle dit, l'enquête, parce que je t'ai abordé sur ça tout à l'heure. Il y a une espèce de croyance comme quoi, puis tu l'as nommé aussi dans ton amorce de réponse, les gens ont l'impression, disent qu'il y a donc bien plus de violence qu'avant, qu'il y a beaucoup plus d'intimidation qu'il y en avait. Ton enquête a dit quoi?
En fait, depuis 2012 qu'on l'amène, OK, à chaque 2 ans, alors on échelonné en 2013 et 2019, ce que les principaux résultats qu'on obtient, c'est que c'est clair que ça se détériore pas. C'est clair. Et ça s'améliore légèrement sur certains aspects. C'est les résultats qu'on a obtenus. Okay? Et si je les regarde, je les compare un peu là, avec d'autres études qui ont été faites au Québec avec des petits échantillons et pas nécessairement à la grandeur du Québec, on va dans le même sens. Alors, on dit, comment ça se fait que dans les médias, à chaque mois de septembre, il y a une augmentation de la violence dans les écoles ou une augmentation de la violence faite aux enseignants. Mm-hmm. Alors, nous, nos résultats ne nous permettent pas de dire que ça se détériore. Ils nous permettent de dire qu'il y a une légère amélioration. Et ce serait assez décevant s'il n'y en avait pas eu une petite, parce que ça concorde avec le moment où il y a eu les différents plans de lutte contre, mm-hmm, la violence et l'intimidation En fait, celui qui est le plan de lutte qui était le plus connu, c'est celui de 2012, qui a coïncidé avec l'ouverture de la chaire de recherche sur la violence à l'école, qui ensuite s'est rebaptisé Bien-être à l'école. Mais en fait, ce sont les principaux constats qu'on fait. Et avec toutes les mesures qui ont été mises en place dans un très grand nombre d'écoles depuis 2012, alors, s'il fallait que ce se soit détérioré, il aurait fallu qu'on se pose encore plus de questions. Alors, ce que ça dit, c'est qu'au fil des ans, c'est une très minime amélioration, mais que ça bouge pas, ça bouge très lentement dans ce domaine-là.
Pourquoi?
En fait, ça prend beaucoup de temps avant qu'un comportement change chez une personne. Et là, nous autres, ce qu'on a fait, ce qui était l'originalité de l'étude, c'est qu'on a suivi des écoles. Et c'était les écoles qui étaient suivies. Il se passe tellement de choses dans la vie d'une école. Un directeur va changer, va avoir une philosophie différente. Une année, il y a une cohorte d'enfants qui arrivent d'un milieu qui est différent. La mouvance du personnel, il y a un certain nombre de conditions qui sont, je dirais, qui s'accompagnent avec des taux plus élevés de violence dans les écoles. Par exemple, la mouvance, le changement de personnel. Les changements de direction d'établissement ne vont pas nécessairement aller avec ça parce que des fois, c'est positif. Mais différentes choses, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'il y ait des pratiques collaboratives, le fait qu'on engage les jeunes, le fait qu'on collabore avec les familles, qu'on fait entrer la collectivité, la communauté dans l'école, toutes les pratiques, l'éducation positive, de régler rapidement les problèmes, de ne pas les traîner. Et tout ça, ce sont des conditions qui font en sorte que dans les écoles qu'on dit efficace, là, où les climats sont positifs, on retrouve ces aspects-là. Et on retrouve aussi les interventions qui visent le bien-être de chaque enfant.
Quand je fais le parallèle avec la pratique sportive, il y a une étude qui avait été menée au Québec en 2013, je pense, par Martin Gendron, l'intimidation en contexte sportif. Et résultat de son étude, c'était 1 sur 2 disait avoir vécu de l'intimidation ou de la violence physique. En milieu scolaire, est-ce que ce sont des chiffres qui se comparent à ça?
Non. Comme je disais, d'après nous autres, ce qu'on a fait là, dans l'enquête nationale, on n'utilisait pas le terme intimidation. Okay? Donc, on ne peut pas nécessairement comparer ces études-là si c'est le terme intimidation qui était pris. Ce qu'on retrouve, par exemple, c'est qu'au primaire, c'est surtout au niveau de la violence sociale, okay? L'exclusion, le rejet. Au niveau du primaire, en 4e, 5e, 6e année, là où c'est le plus déclaré, c'est l'exclusion. Ensuite, c'est physique. Et ensuite, c'est les insultes, les menaces verbales. Et viennent après ça le matériel, les vols, les bris. Puis en tout dernier lieu, la cyber, OK? Alors, les propos ou les humiliations par le web. Chez les secondaires, c'est un peu différent. C'est les propos, et les insultes et les menaces verbales qui priment. Ensuite, on y va avec la violence sociale, le rejet, le retrait, l'exclusion, parler dans le dos, des choses qu'on peut retrouver en contexte sportif aussi. Et l'aspect électronique vient encore en dernier lieu. Malgré ce qu'on entend.
Bien, c'est ce que j'allais dire. Pourtant, on a l'impression que, mon Dieu, la cyberintimidation, c'est l'éléphant dans la pièce. Là.
Ça dépend sur quoi on base notre impression. Si c'est sur les médias, si c'est sur ce qu'on entend, c'est clair que dans les médias, on entend les drames. Et il ne faut pas les minimiser. Par contre, il y a une différence entre les drames et la détresse que certaines personnes peuvent vivre, des enfants ou des adolescents. Il y a une différence entre ça. Puis c'est un fléau où tout le monde le vit. C'est pas la même chose. Et le fait de dire que c'est peut-être 10 % des jeunes qui vivent ça, une ou l'autre des formes en milieu scolaire, c'est pas la majorité. Mais ça ne veut pas dire de ne pas s'en occuper.
Non, c'est ça.
C'est ça qui est un peu... c'est compris difficilement. Alors, oui, il y a des choses qui arrivent. Oui, il y a des choses pénibles. Et ça va continuer. Il va continuer à y avoir des gros titres. Et ça va être le sensationnalisme dans les médias. Par contre, nous autres, dans les faits, ce qu'on peut dire avec les chiffres qu'on a eus, avec vraiment des centaines de milliers de répondants, là... Okay? Alors, on n'a pas juste parlé avec des jeunes qui vivaient des choses difficiles, on a parlé avec l'ensemble, on a interrogé l'ensemble des jeunes. Alors, sur la masse, donc, il ne faut pas confondre le faible pourcentage avec la détresse et la souffrance et les conséquences qui vont aller avec ça. Un autre aspect qui est très peu discuté, c'est les aspects positifs que des jeunes qui ont subi l'intimidation, la violence à l'école, les ont aidés à forger leur caractère, tout ça. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais il y a quelques études qui ont osé se centrer là-dessus. Elles étaient à contre-courant, mais il y a des personnes qui peuvent témoigner de ça aussi. Donc, si je reviens au résultat de l'étude, ce qu'elle nous a, en tout cas, ce qu'on a appris, c'est que ces comportements-là évoluent très, très, très lentement. Alors, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans les écoles, dans ce sens-là. Le cyberharcèlement, ou le, c'était pas le plus important, OK? D'autres études sont venues ajouter que les jeunes qui se faisaient harceler sur le web, c'était les mêmes personnes qui vivaient ce genre de choses-là à l'école. Donc, ce qui me fait dire encore plus que quand tu sais comment te comporter, quand tu développes des bonnes compétences sociales et émotionnelles, tu transportes ton bagage relationnel et émotif, peu importe le milieu où tu vas. OK. Ce que l'enquête nous a aussi appris, c'est que les jeunes ont évolué un peu, OK, donc un peu moins de violence au niveau verbal, physique, émotionnel, relationnel, social. Par contre, les adultes n'ont pas bougé. Et c'est là... Et les adultes, c'est-à-dire quand on interroge les enseignants, le personnel scolaire, on leur demande... s'ils ont vécu des comportements, des cris, des menaces, des injures, des coups, ou encore par le web, il y a toujours à peu près 10%, autour de 10%, entre collègues, où ça se passe toujours. Ça n'a pas du tout bougé.
Et c'est des chiffres qui sont loin de ce qu'on peut avoir comme...
Ensuite, la violence des parents envers le personnel scolaire, ça n'a pas du tout bougé. Ça c'est pas amélioré. Puis, tu sais, je me dis, on a mis beaucoup le paquet sur les enfants, sur les adolescents, mais on essaie de leur enseigner comment se comporter, mais est-ce qu'ils vont faire ce qu'on leur demande, ce qu'on leur apprend, ou ils vont continuer à faire ce qu'ils voient, de ce que les adultes font? Donc, ce qui m'a amené à m'intéresser justement à la formation du personnel. Je pense qu'il faut vraiment s'intéresser aux adultes. Il faut vraiment miser sur le monde des adultes pour qu'ils apprennent. On a juste à aller voir sur le web, c'est pas toujours très drôle qu'est-ce qui se passe là. Okay?
Les enfants apprennent de leurs parents.
Ils voient. Okay? Donc, au niveau des pratiques aussi, au niveau des pratiques professionnelles en enseignement, j'ai fait une étude il y a 2 ans avec une collègue, Natalia Garcia, qui nous a appris que la formation initiale ne préparait pas les enseignants pour gérer... en fait, on sait depuis longtemps, les enseignants nous disent qu'ils ne se sentent pas compétents, ils n'ont pas été bien préparés dans leur formation pour gérer les problèmes de comportement des jeunes. Mais là, ce que je voulais savoir, moi, avec cette étude-là, c'était, oui, mais est-ce que les universités préparent les futurs enseignants du primaire dans ce cas-ci, pour non seulement pas gérer nécessairement ou juste gérer les problèmes de comportement, mais pour enseigner aux enfants à développer des compétences sociales et émotionnelles, plutôt que de reléguer ou de donner cette tâche-là aux psychoéducateurs ou aux éducateurs spécialisés dans l'école. Si l'enfant n'a pas confiance que l'enseignant maîtrise ces compétences-là, il ne va pas référer à lui quand il va avoir besoin. C'est ce que les résultats de ma thèse m'avaient informé, dans le sens que quand ce sont les enseignants, donc les personnes les plus significatives, les plus proches des jeunes qui animent ces activités-là de développement de conscience de soi, à gestion de la colère et gestion des conflits. Lorsque ce sont les enseignants qui les animent, les jeunes ont confiance qu'ils peuvent référer à eux lorsqu'ils ont des difficultés. Alors que lorsque ce sont des spécialistes, je dénigre pas du tout le travail des spécialistes, j'en étais une moi-même, et ils sont pas toujours là à côté d'eux, donc ils réfèrent moins à eux. Alors, la formation initiale actuellement ne prépare pas, dans les universités québécoises francophones, ne prépare pas les enseignants à enseigner, à les développer d'abord pour eux. Alors, les universités qui offrent des cours, des formations sur la gestion de son propre stress, sur la relaxation, sur la personne enseignante qui est son principal instrument de travail, en fait. Alors, très, très peu d'universités font ça.
Quand on revient à l'enquête, des pistes d'action possibles, envisageables, puis il y a une chose sur... lesquelles j'aimerais bien t'entendre, c'est les habiletés socio-émotionnelles. Tu en parles beaucoup, tu y as fait allusion déjà quelques fois dans la discussion que nous avons. J'aimerais ça t'entendre nous en parler davantage. En quoi ce pourrait être positif, par exemple, pour le monde du sport, si on voulait implanter, puis on était en train de l'essayer, de commencer à discuter de ça avec nos intervenants, mais j'aimerais ça que toi, tu nous dises ta vision de l'externe, en quoi ça pourrait être positif de penser à développer, tabler sur les habiletés socio-émotionnelles en contexte sportif?
En fait, comme je te disais tout à l'heure, le contexte sportif, c'est un contexte qui réunit un groupe de jeunes, un groupe de personnes. Donc, moi, je prends pour acquis, je l'aborde de la même façon qu'un groupe dans une école où, disons qu'il y a un enjeu dans celui-là, peut-être la compétition, mais peut-être pas aussi, c'est pas tous les milieux de sport qui sont compétitifs non plus, là. Donc, si à la base, on enseigne aux enfants, dès le jeune âge, donc, que les parents savent qu'ils l'ont d'abord développé pour eux, et qui sont capables d'accompagner leur enfant dans, si je parle, d'avoir conscience de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sentent, de l'identifier, de mettre des mots là-dessus. Alors, quand on développe le langage, il y a beaucoup moins de risques que ça devienne de la violence ou un comportement qui n'est pas contrôlé parce qu'on a pu l'exprimer. Donc, que ce soit dans le domaine sportif ou, supposons, où les jeunes peuvent vivre beaucoup de frustration, beaucoup de déception, beaucoup de tristesse, du regret, de l'envie, de la jalousie, toutes sortes d'émotions, toutes sortes. C'est à fleur de peau. Et plus le stress est présent, plus les émotions c'est nécessaire de pouvoir les canaliser et de pouvoir les identifier pour construire avec, sans nuire à autrui. Et au niveau relationnel, une fois qu'on a travaillé à construire vraiment ces compétences-là, en fait, ces compétences-là se développent tout au long de la vie. Mm-hmm. Mais plus les jeunes commencent à les développer tôt, c'est-à-dire à la maison, en supposant que les parents aussi sont à l'aise avec les émotions, il y a plus de chances que en arrivant dans un groupe, donc pour entrer en relation avec l'autre, pour pouvoir vraiment travailler en collaboration, l'esprit d'équipe, ou exprimer sa déception à un ami, ou soutenir un ami. Donc, les aspects relationnels, c'est pas juste des conflits, c'est pas juste la résolution de conflits, c'est apprendre à demander de l'aide, à savoir où aller la chercher et à l'accepter. Et finalement, tout ça, ça va aider à prendre des décisions responsables en tenant compte des contextes. Donc, si moi je décide de tel comportement ou de tel autre comportement, si j'ai appris à regarder les effets sur l'autre de mes propres décisions et à développer une espèce de conscience sociale, puis à développer la capacité à comprendre ce que l'autre peut vivre et, par ricochet, à me dire que moi, j'aimerais pas ça vivre ça, si je suis capable d'être conscient de ça, les décisions puis les comportements que je vais adopter devraient en être teintés.
Quand je vous poursuis sur l'enquête, tu as dit deux ou trois fois « légère amélioration ». en même temps, il y a une préoccupation de la population qui voit ça gros, les médias qui en mettent. Comment il se fait que ce soit une légère amélioration? Puis qu'est-ce qu'on devrait faire pour qu'on passe de légère amélioration à une bonne amélioration, une amélioration importante?
Beaucoup de promotion des conduites positives, beaucoup de promotion de ce qu'on veut. Je dirais de faire transcender les approches qui sont dans les écoles au niveau de la population. Le gouvernement actuellement mène une stratégie, un plan d'action pour contrer l'intimidation dans tous les contextes de vie. Qu'on soit d'accord ou non avec le terme « intimidation », ok, parce qu'il y a beaucoup de travail qui s'était fait, si je regarde juste au niveau des personnes âgées ou de la maltraitance ou de la violence conjugale, il y a beaucoup de travail qui s'est fait dans ce... On nommait pas ça « intimidation », mais la volonté est de vouloir s'occuper des comportements des adultes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on va les punir? Ou est-ce qu'on va avoir des mesures réparatrices ou éducatrices aussi auprès des adultes? C'est la réflexion qu'il faut qu'on aille tout le monde ensemble. Mais comme contrer l'intimidation, c'est quelque chose. Mais apprendre à bien vivre ensemble en se respectant soi et en respectant les autres, je pense que c'est ce but-là qu'il faudrait qu'on ait.
Ça, c'est le solage de la réussite.
C'est ça.
Novembre passé, le gouvernement du Québec a annoncé la création d'une chaire pour la protection de la sécurité et de l'intégrité en milieu sportif, ici à l'Université Laval. Bravo. Maintenant, fort de ce que tu as vécu, de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, est-ce que des enseignements, des choses que nous, on pourrait ensemble déjà s'inspirer de vos bons coups, des pièges que l'on pourrait éviter? Y a-t-il des conseils à nous donner pour cette chaire-là qui prend son envol?
Bien, en fait, la chaire sur le bien-être puis la prévention de la violence à l'école a évolué. Okay? C'était au tout début, avec ce qu'on savait à l'époque et tout ça, c'était la chaire de recherche sur la sécurité et la violence à l'école. Donc, on était vraiment dans les concepts sécuritaires. Est-ce que les écoles, c'est dangereux? Bon, et tout ça, ça avait été pris par le politique et c'est ça. Ensuite, on s'est adapté avec une approche qui convenait beaucoup plus à sa titulaire, mais c'était moi. Mm-hmm. Donc, bienveillance et en conservant prévention de la violence quand même, pour pas qu'on perde ça à l'esprit. Je dirais que en ayant deux volets, le volet recherche et le volet formation, parce que la chaire de recherche dont je m'occupe a deux volets, recherche et formation, ça correspond justement à faire profiter le terrain des recherches. Donc, je dirais pas que c'est des conseils, mais je pourrais dire que ce qui a été intéressant puis salué par les gens du terrain, c'était que les recherches qu'on menait avaient des retombées sur le terrain et qu'on pouvait par la suite travailler à faire du matériel pédagogique. Alors, si on va sur le site de la chaire, on voit que une recherche, un matériel pédagogique, un plan de formation, et on fait travailler aussi les étudiants là-dessus, on prépare la relève et tout ça, mais il y a le format de gérer une chaire de recherche et il y a les contenus. Je me suis toujours inspirée des contenus inspirés du terrain, plutôt que des idéologies de recherche ou d'intérêt personnel que je pourrais avoir. Donc, je pense que en s'inspirant toujours et en travaillant en partenariat très proche avec les gens du terrain, en s'assurant qu'il y a de la recherche qui sert qui revient sur le terrain, qui fait du bien. Mm-hmm. Pour moi, la recherche, il faut que ça fasse du bien. Alors, pas mal plus que... C'est sûr, nos articles scientifiques sont lus, mais ils profitent beaucoup plus à un grand nombre de personnes sur le terrain.
Nous, on a déjà commencé à appliquer en s'inspirant de ta recherche dans nos livres, les aventures de Cindy, puis ça a vraiment un impact. Les gens l'apprécient vraiment beaucoup dans nos bandes dessinées. Puis on s'est inspiré vraiment directement de ton approche, puis on s'en félicite vraiment. Là, on est vraiment très contents de ça. Les résultats sont là. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Qu'est-ce que tu peux souhaiter à notre belle jeunesse?
Je souhaiterais à notre belle jeunesse d'être indulgent par rapport aux adultes. Je dirais, indulgent, c'est peut-être pas le terme, mais je dirais, les adultes ont des choses à voir, ont des choses à apprendre sur eux. Et on n'a pas eu la chance, nous, d'avoir ces genres de formations-là ou de cours-là. Alors, je pense que je souhaiterais aux jeunes, je souhaiterais aux jeunes d'évoluer dans des milieux avec des adultes, j'allais dire le mot cliché bienveillant, là, mais de s'entourer de personnes qui vont être capables de voir le positif dans chacun d'eux. Et je souhaiterais aux jeunes de se trouver une personne de confiance, qu'elle soit à l'école, qu'elle soit dans le monde sportif, qu'elle soit à la maison ou dans le quartier, au moins un adulte de confiance à qui il peut parler quand ça ne va pas, avec la certitude qu'il va être cru. Je pense que ça pourrait être un beau cadeau à faire aux jeunes aujourd'hui.
Et nous, qu'est-ce que nous pouvons te souhaiter?
À moi?
Oui.
Ben, de continuer à essayer de développer des choses pour aller plus loin, pour sortir des sentiers battus. Parce que, comme je disais tantôt, quand on continue à faire des choses qui ne fonctionnent pas, il n'y a rien qui nous fait penser que ça va continuer à fonctionner, ça va fonctionner. Donc, évaluer, regarder qu'est-ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Conserver un peu de ce qui fonctionne, toujours en améliorant. Mais c'est clair que moi, je m'enligne vers une orientation de promotion des conduites positives, sans lunettes roses, mais avec bienveillance, exigence, mais soutien et accompagnement.
Merci. Claire, merci beaucoup. Et je suis convaincu qu'au terme de cette discussion-là, les gens vont comprendre encore mieux pourquoi tu étais avec nous aujourd'hui. Merci, à bientôt.
Ça me fait plaisir, Sylvain.